C'est la question, peut-être pour lancer le débat et pour répondre, pour rebondir peut-être sur l'intervention de Damien Durcel, peut-être en me faisant en quelque sorte l'avocat du diable et pour éventuellement éclairer ce que vous avez avancé d'une autre manière. Donc, vous avez avancé cette idée qui est assez, comment dire, séduisante sur un plan sociologique, je veux dire, qu'il existerait un programme de séparation qu'on imposerait aux parents des élus et qui correspondrait à l'implémentation d'une véritable politique de la famille. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi... j'ai l'impression que vous avez abordé la chose de manière assez négative, alors qu'on pourrait aussi la voir sous un autre angle et se dire que peut-être par l'effet d'une sorte de psychologisation du droit... je vais appeler les choses comme ça. Et évidemment, dans le domaine familial, on a forcément, je vais dire, une influence qui s'est faite de certaines conceptions psychologiques mettant au centre d'une situation de séparation la place de l'enfant d'une toute autre manière qu'à d'autres périodes de notre histoire. Et disons que cet apport de la psychologie a... s'est inséré dans notre droit avec la notion de l'intérêt de l'enfant, qui à la fois est une notion flexible, mais qui a une portée considérable dans la manière dont les acteurs de la justice et les parents eux-mêmes, avant l'intervention de la justice ou d'un intervenant comme l'auteur, se posent des questions en ayant égard à cette idée de l'intérêt de l'enfant, évidemment, pas simplement une notion dans leur esprit, mais qui a vraiment une portée tout à fait concrète. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une demande sociale pour que les époux désunis, je les appelais comme ça, enfin, ils ne doivent pas être forcément mariés, ils ne le sont pas forcément très souvent, sortent de l'état de minorité, pour parler comme Kant, dans lequel ils étaient pour accéder à la majorité, donc n'attendent pas que le juge conçu à l'image d'un père, dans une vieille conception du divorce pour faute, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as fauté, vienne régler la situation, mais accepte que, à présent, leur situation est que pour le restant de leur jour, ils vont devoir gérer cette situation qu'ils ont eux-mêmes créée, c'est-à-dire qu'ils ont un enfant, et qu'il n'y a pas toujours un tiers qui va venir leur expliquer comment faire les choses pour le bien-être de leur enfant, mais que c'est à eux de gérer cette situation, en fait, qui est une situation vraiment pas possible. Enfin, en tout cas, très difficile à gérer au quotidien. Ce serait ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect dimension positive aussi?
Oui, en deux mots, vous avez parfaitement raison. J'ai été trop négatif. Je vais être précis, peut-être. J'ai d'abord voulu dire que n'oublions pas qu'il y a le bâton qui se cache derrière le discours du tout à la négociation, hein, et que le bâton, il est bien là, notamment dans les outils de justice familiale protectionnelle. Voilà, il y a ce discours qui peut vraiment être à la limite de la manipulation à certains égards. De toujours faire des accords alors que ce sont des accords forcés, et puis après on le voit comme avocat nous, et après ça coince les gens parce qu'ils ont été forcés à un accord, et puis après on dit mais vous étiez d'accord, donc voilà, donc en même temps s'ils n'étaient pas d'accord l'enfant était placé, donc je veux dire, on est vraiment dans un truc quand même un peu spécial. Donc je réagissais par rapport à ça. D'une part, quand vous dites que il y a quelque chose de la responsabilisation qui est positif, c'est évident, hein, donc ça c'est évident. Il y a énormément de chemin qui a été fait. Il y a du positif dans cette par rapport à ce qu'on faisait avant. Le fait effectivement de mettre l'intérêt de l'enfant au cœur du débat, c'est un acquis tout à fait indéniable. Et je dirais même que là où il faut, quand c'est nécessaire, il faut intervenir. Il y a des situations familiales tout à fait problématiques où il faut intervenir. Le seul bémol que je mettrais, peut-être qu'alors ma langue a été plus rapide, parce que j'ai un peu voulu jeter le bébé, enfin j'ai eu pour effet de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est que la difficulté, c'est que quand on intervient auprès des familles, quand on le fait avec un regard, je dirais, idéologique d'un modèle familial unique et qui n'est pas partagé par toute la population, on rentre dans une forme de violence symbolique qui peut avoir, je le vois tous les jours, des effets extrêmement déstructurants sur les familles. Et donc, ce n'est pas d'ailleurs que la justice. On pourrait dire ça par rapport à des intervenants scolaires ou médicaux, ou psychosociaux au sens large. Donc, je crois qu'il y aurait vraiment un intérêt à se former et à s'ouvrir au fait que des familles peuvent fonctionner autrement, que parfois ça nous choque parce que nous, on est totalement baignés dans cette espèce de modernité familiale, mais que pendant des siècles, on a aussi fonctionné autrement et tout le monde n'était pas fou pendant des siècles. Donc, je veux dire, il y a aussi cette chose-là, cette forme de... Quand vous dites une justice pour chaque famille, ben, on en est loin justement. Si c'était une justice pour chaque famille, ce serait merveilleux. Si la loi sur l'hébergement égalitaire, plutôt que de dire qu'il faut l'hébergement égalitaire, elle dirait qu'il faudrait l'hébergement en fonction des valeurs familiales existantes en matière d'hébergement ou de comment que, oui, on serait dans tout à fait autre chose. Là, on serait vraiment dans quelque chose de, une forme de. Voilà. C'est ça que je peut-être. Que ce qui décelait un peu mon...
J'ai une question ici, et puis je
vais faire une question, peut-être une réflexion très rapide. Chez Damien, quand tu as parlé du salaud, j'ai pensé non pas à Sartre, ça devient ringard, on doit expliquer de penser à Sartre, de le citer, mais à Béatrice Brenner, la papesse de la médiation en France, qui raconte souvent la même anecdote, que dans sa salle d'audience du tribunal du travail, comme on dit en Belgique, du tribunal de la Cour du travail de Grenoble, ou de la Chambre du travail...
Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble.
Sociale, réalisée de la Cour d'appel de Grenoble, une dame demandait à son avocat, « Mais maître, comment on a fait quand elle est passée ? Comment, quand je viens de la plaider depuis une heure ?» Elle demande la parole au président, qui a lui accorde, il dit, « Monsieur le président, je me fiche totalement... de l'article 52 du Code du travail, de l'indemnité et de la réintégration, je suis là pour vous entendre dire que mon patron est un salaud. Que parfois, ça pour la mère. Mais maintenant, le juge ne le dit pas, peut-être que le médiateur doit le dire.
Je me tais.
D'ailleurs, que de vos thérapies, il y a quelques années, la Cour d'appel de Paris avait organisé un colloque intitulé La médiation, une justice douce. Et j'ai passé une demi-heure à tempêter. Contre ce titre disant qu'on n'a pas affaire à la justice et qu'elle n'est certainement pas douce. Alors, dans le tribunal, c'est plus ou moins civilisé, on ne hurle pas, il n'y a pas de sang sur les murs. Damien, tu sais comme moi, dans certaines séances de médiation, la douceur est difficile à trouver. Ensuite, vous avez dit que le médiateur, dans une des définitions, on parle du médiateur des solutions qu'il propose. Alors, dans la doctrine de la médiation non familiale, des années 80, 90 à 2000, on enfonçait dans la tête du médiateur que la dernière chose qu'il doit faire est de proposer des solutions. On parlait de la maïeutique du vieux Socrate, qui est là pour accoucher de la solution que les parties ont en elles. En médiation non familiale, on en revient, et comme dit un collègue américain, on ne paye pas $500 de l'heure pour ne pas proposer des solutions. Ensuite, le maire... jugement, mais pourquoi pas une justice? Il n'y a pas de juridictio, personne ne dit le droit, on ne dit pas qui est le bon, qui est le mauvais, qui a tort et qui a raison, et surtout on met de côté le concept central de faute, de culpa, pour dire bon, il y avait un événement qui était à la base de notre présence ici, on ne va pas dire qui est le bon, qui est le mauvais, qui a commis une faute ou non, on va tenter de trouver une solution. Et enfin, le médiateur, surtout, pourquoi le médiateur de justice, il est formé, parfois avec presque de la violence, à retenir son jugement, à ne pas former un jugement, à ne pas au moins extérioriser le jugement qu'il porte in petto, pour aider les parties à trouver une solution. En un mot, la médiation, pour moi, chacun a sa définition, c'est un mode d'apporter la paix et pas la justice. Si en plus, cette formule, il y a de l'équité et la justice, tant mieux, mais c'est la cerise, c'est le gâteau. Le gâteau, la farine, c'est la paix, la cerise, c'est la justice.
Vous pouvez réagir ou...
Alors, pour ce qui est de la violence ou de la non-violence, je me faisais l'écho de la manière dont on présente traditionnellement les choses, sans pour autant la prendre à mon compte, puisque la justice du juge peut être douce. Et une séance de médiation n'est pas forcément un robinet d'eau tiède. je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est un peu la manière dont on a présenté les choses, comme c'est un peu la manière dont une certaine doxa présente la différence, à laquelle je ne crois pas, entre la médiation et la conciliation. Le médiateur propose un projet de solution, le conciliateur ne fait que renouer le fil du dialogue entre les parties. Ça n'a pas de sens, évidemment. Tout dépend de la nature du litige, de sa complexité. Enfin, il y a beaucoup de caractères du litige qui peuvent expliquer que le médiateur ou le conciliateur soit plus ou moins accoucheur ou plus ou moins aviseur. Enfin, on est entièrement d'accord là-dessus. En revanche, je dois constater qu'il y a un désaccord énorme entre nous sur ce qu'est la justice, qui pour moi ne se réduit absolument pas à la justice juridictionnelle, à la juridiction. Et ça, c'est un point de vue philosophique.
Je vais juste réagir juste à par rapport à cette dernière phrase. Donc, médiation, pour moi, je dirais, c'est apporter la paix par la justice. Donc, mais la justice au sens où vous l'avez défini, du sentiment de justice. Et donc, c'est important. C'est-à-dire que peut-être, justement, peut-être une des définitions, une des oppositions que je ferai entre la médiation et ce que moi j'entendrais de la conciliation ou d'une forme de négociation, c'est précisément là. C'est que on travaille avec ce sentiment de justice et d'équité en permanence, et qu'au travers de ça, on arrive à une paix et une sérénité, mais c'est pas coûte que coûte atteindre un accord ou quelque chose de ce type-là. Je veux juste dire ça.
Il y avait deux questions déjà signalées. Ce que je vous propose, c'est de les formuler tous les deux et de les laisser répondre ensuite. En fait, c'est une question pour une triversale par rapport à ce que vous avez dit du médiateur moderne qui, dans certaines circonstances, lorsqu'il est confronté en médiation familiale à des personnes qui ne peuvent pas se remettre en question et qui ont besoin d'une forme d'autorité dans la médiation, vous adoptez une position d'autorité, si j'ai bien compris. Alors, ma question est assez précise. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, jusqu'où le médiateur peut-il aller dans des propositions, peut-être, ou de prendre une posture d'autorité, sans se mettre à mal par rapport à la déontologie de la Commission fédérale de médiation?
C'est une demande de clarification aussi de... parler davantage de son groupe pour sembler vouloir donner une dimension plutôt culturaliste à certains conflits auxquels on ne serait pas trop en tant que juge ou médiateur familiarisé. Donc quelque chose qui reposerait sur le plan culturel, un conflit qui serait incommensurable, qui ne pourrait pas être réduit si quelque chose sur lequel on pourrait s'entendre. Mais en même temps, vous voulez privilégier, en tout cas, vous nous donner l'idée ou l'illustration que certaines personnes cherchent aussi dans leur dynamique une réponse qui transcenderait, enfin un médiateur qui transcenderait ces problèmes culturels, ces conflits qui sont présentés en justice ou en médiation. Et mon parallèle est sur ça. Je suis assez étonné de voir en médiation interculturelle cette envie des médiateurs de vouloir culturaliser absolument les conflits aussi pour un peu justifier leur approche et leur métier. Alors qu'en soi, je pense qu'on a aussi tout intérêt, et de par cette posture transcendante, même si on n'a pas du tout ce terme-là, de considérer la culture comme quelque chose qui s'invente, qui n'est pas justement quelque chose qui enferme deux parties dans un conflit culturel, et que la demande d'ouverture qu'on aurait face à un médiateur ou à un juge pour résoudre un conflit relève aussi de cette dynamique-là, c'est-à-dire que si le juge ou le médiateur s'ouvre à la personne sur le plan subjectif et culturel, il y a lieu, à mon sens, peut-être un petit peu embelli ou innocent, d'inventer une solution, une justice, qui est à la fois une mise en subjectivité du juge et du médiateur et de la propre personne. Et donc une invention de la culture. Donc par là, considérer davantage la culture comme une invention ou quelque chose qui est statique et qui se reproduit à l'identique.
Oui, je devrais sans doute vous reposer une question pour bien, parce que je crois que c'est un malentendu vraiment. Donc, moi j'ai toujours dit et écrit qu'il fallait faire très attention de ne pas culturaliser le conflit. Donc, si on est arrivé à vous penser ça, c'est vraiment qu'on ne se comprend pas. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que il y avait un certain modèle de vivre en famille qui pouvait être tellement prégnant et finalement sur lequel peut-être l'intervenant, médiateur ou juge ou quoi n'a pas vraiment pris distance, qui l'amène à être dans l'incapacité à s'ouvrir à des vécus familiaux autres. Et donc on est vraiment dans un espèce de situation de jugement, enfin de blocage complet dans la possibilité de pouvoir travailler ensemble. Ça c'est une chose que j'ai essayé de dire aussi, c'est que la figure d'intervenant est elle-même une question partiellement culturelle. Donc que quand je me considère d'ailleurs pas du tout comme un médiateur interculturel. Comme si d'ailleurs la question culturelle se jouait entre les parties. Je crois que moi je pense plutôt qu'il y a un problème de, c'est la culture de la médiation qui fait conflit avec parfois une grosse partie de ses clients potentiels. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il y aurait un problème. Donc la culture de la médiation ou la culture du juge dans sa manière dont lui conçoit que cette séparation devrait être vécue, organisée, vécue, notamment dans une forme de nécessaire communication, alors que les gens, pour prendre un exemple plus radical, des gens, il y a des couples qui vivent des années et relativement bien. Nous, on ne conçoit pas ça. Pendant des années, ils vivent sans communiquer du tout, mais c'est comme ça chez eux. Et tout d'un coup, au moment où ils se séparaient, ils devraient découvrir une capacité de négocier, alors qu'ils ont, au moment du conflit, où le conflit est toujours assez fort. Donc, c'est un peu de cet ordre-là. Donc, voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Et en ce qui concerne la forme d'autorité, je dirais que donc, je ne suis pas dans une idée que... comment dire? Je crois qu'il y a certaines attitudes qu'on nous apprend comme médiateurs, qui sont pour partie des outils habituels, enfin des manières d'être, qui est il ne faut surtout pas faire de propositions, comme Avi vient de le dire. Hein, mais j'ai l'impression qu'on dit ça beaucoup, parce que là, en tout cas, une certaine école de médiation est née au sein d'une profession juridique dont c'est une maladie pathologique de faire tout le temps des propositions. Il y a quelque chose qui s'est créé autour de ça. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus. Hein. Je suis pas... si vous voulez, il y a aussi là derrière cette philosophie de l'idéologie d'empowerment. Empowerment, vous savez, dans les années 60-70, il y a cette idée qu'il faut amener les gens à se prendre en main. Vous voyez, bon. Par rapport à certains publics, bien sûr, il y a cet objectif de responsabilisation, si vous voulez. Mais dans la manière de faire, ça peut être complètement... ça peut créer vraiment un fossé entre eux et nous, cette manière de dire « Non, non, je ne sais rien », alors qu'ils savent que je suis avocat et que j'ai quand même un peu l'habitude. « Je ne sais absolument rien. Non, c'est à vous à trouver les solutions. Dites-moi de quoi on va parler. Enfin, » alors que les gens crèvent d'envie d'écouter. « Ça va, oui, d'abord, vous avez des solutions en tête. » Donc, effectivement, il y a à trouver des manières de proposer des solutions, mais peut-être des panoplies de solutions, d'être très ouvert, et d'assumer le fait qu'on est quelqu'un d'expérience. Hein, donc moi, de plus en plus, je dis, ben oui, j'ai l'habitude de recevoir des familles, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ceci, mais il y en a d'autres qui font comme ça, etc. Et les gens sont contents. C'est aussi cette idée qu'on va chez un professionnel, c'est quelqu'un de savoir, on veut obtenir quelque chose de l'ordre du savoir qui nous aide. Hein. Mais maintenant, vous faites ça avec d'autres publics, ils n'aiment pas du tout. Parce qu'ils attendent, ils sont dans cette tradition, enfin pas dans cette tradition justement, dans cette modernité de très psychologisante où voilà, on est très à l'écoute et on dit ben oui, c'est vous qui allez trouver. Oui. Donc il y a cette capacité de s'adapter. Et sur la figure d'autorité, bon, ça, à la limite c'est plus des choses qui se vivent dans des formations que de pouvoir l'expliquer, mais c'est vrai que c'est développer un discours, d'une part forme une forme de sagesse, puisque je sais qu'il y a cette fibre-là, mais qui marche bien avec des publics quand même assez variés, donc quelqu'un qui a de l'expérience. Et l'expérience, c'est pas seulement autour de comment faire, mais c'est autour de comment les familles font, et comment ce qu'ils faisaient, et comment ce qu'ils sont. Donc vous voyez, c'est extrêmement ouvrant justement sur des réalités culturelles très diverses que de pouvoir dire des choses comme ce que vous me dites, ça me rappelle que les hommes, il y a quelques générations, ça se passait comme ceci, et puis dans ma propre famille, mon grand-père, ça se passait comme ça, et aujourd'hui on dit ça, mais ceci et cela. Donc en fait, ce que j'ai développé, c'est un espèce de discours anthropologique qui permet en réalité d'envoyer le message de ici on peut dire des choses sans juger, parce que la difficulté, c'est que tous ces vécus traditionnels familiaux se vivent dans la honte un peu. Donc il y a quelque chose à asseoir autour de voilà, et ça c'est des manières de travailler à partir de cette place d'autorité. Voilà. Mais...
il y avait une question ici. D'abord, je voudrais vous remercier tous les deux pour vos exposés que je trouvais vraiment très très intéressants. J'ai deux questions. La première porte sur les effets de la double casquette, mais tant du juge que du juge médiateur que de l'avocat médiateur, et là je m'explique à Damien Montel. Donc les effets de la double casquette sur la fonction de celui qui fait la médiation et la perception aussi de sa fonction par les justiciables au sens large. Sans doute qu'il faudrait, je ne sais pas si dans la salle il y a aussi des juges qui font de temps en temps de la médiation, mais quand vous parlez de déformalisation de la justice, j'ai l'impression que quand le juge endosse la casquette de médiateur, j'y connais rien à la médiation, mais voilà, il y a plusieurs tribunaux en Belgique qui le font, et vous-même vous avez parlé des frontières poreuses entre les deux. Quand le juge endosse la casquette de médiateur, peut-être qu'il quitte la robe, mais j'ai vu en tout cas que ça pourrait aussi se passer dans l'enceinte du tribunal, et donc on a une déformalisation qui n'est pas complètement consommée, si vous voulez, dans la mesure où peut-être qu'on garde quelque chose du rituel judiciaire à partir du moment où le juge exerce une fonction de médiateur au tribunal. Et je me demandais si vous aviez, si vous pensiez qu'il y avait des écueils en fait à la pratique de la médiation par le juge lui-même. Est-ce qu'on perd quelque chose dans la perception par ceux qui les recouvrent? Et puis aussi, est-ce que vous savez si, mais bon, ça c'est plutôt une question qui s'adressera à un juge médiateur, mais si ça change sa perception, ça transforme son métier de jugé aussi quand il réendosse la casquette de juge. Et j'avais envie de poser la même question à Damien Durtel pour lorsqu'il exerce sa fonction d'avocat, est-ce que le fait de faire beaucoup de médiation transforme votre manière de pratiquer votre métier d'avocat? Ça serait peut-être un peu plus personnel comme question. Et puis une autre petite question, donc j'y connais rien à la médiation, mais je me suis un peu intéressée à toute la question de l'avènement de la justice restauratrice et de son influence, en fait, par exemple, dans l'instauration de mécanismes alternatifs de justice du type commission de vérité et réconciliation dans des pays qui sortent de conflit. Et donc là, j'avais une question qui était peut-être un peu plus sociologique, parce que ça m'intéresse très fort de comprendre certaines vagues, certains mouvements, comme par exemple la déformalisation de la justice. Et je me demandais dans ce boom de la médiation, qui peut être historiquement situé, sans doute, même si vous avez parlé des origines de Rome, etc., mais il y a quand même ces dernières décennies ou ces dernières années vraiment un boom de la médiation, y compris dans le système judiciaire. Si c'était lié en dehors de la question de l'arriéré judiciaire à certains lobbies professionnels, à tout hasard, je me demandais si par exemple les psychanalystes, les associations de psychanalystes ou psychologues avaient eu un rôle dans les réformes judiciaires ou législatives qu'il y a pu avoir, et si du coup ça avait peut-être un lien avec cette culture de la médiation comme non-intervention, c'est vraiment peut-être totalement farfelu comme question, mais c'est juste par curiosité, je me demande.
ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Alors, peut-être sur la double fonction, pour commencer. Alors, si on prend la solution traditionnelle du droit français, c'est le juge qui concilie. Lorsqu'ils ont réformé le code de procédure civile dans les années 1970 pour faire le nouveau code de procédure civile, les rédacteurs du nouveau code de procédure civile, Gérard Cornu, Jean Foyer, Henri Modulski, ont inscrit la conciliation judiciaire au nombre des principes directeurs du procès. Si l'article 12 dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, l'article 21, derrière, vient dire il entre dans la mission du juge de concilier les parties. C'est là, j'allais dire, le recueil d'un héritage historique qui renvoie à une figure traditionnelle du médiateur qui est dans une position d'autorité. Et quel autre personnage que le juge a cette position d'autorité? Le juge conciliateur pouvant être un juge unique, comme c'est le cas pour le tribunal d'instance, qui est l'héritier des justices de paix, ça peut être aussi une formation collégiale. Le bureau de conciliation dans nos conseils de prud'homme, c'est un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié. Ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. La conciliation prud'homale aujourd'hui, c'est moins de 10%, et on est même plus proche de 5% que de 10%. Ça ne marche pas très bien, sans doute parce que c'est le juge qui concilie, sans doute aussi parce que c'est imposé. Ça se heurte à des écueils. Oui, ça se heurte à des écueils. Ça se heurte à l'écueil de la confidentialité. Ça se heurte à l'écueil de l'impartialité. Et c'est la raison pour laquelle la tendance contemporaine, qui date effectivement d'une vingtaine d'années, a été quand même de développer des formes de conciliation qui échappent à la conciliation du juge lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on s'est orienté à la fois vers la généralisation de ce que j'ai appelé la médiation judiciaire préalable, c'est-à-dire le fait pour un juge de première instance de déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice, et de l'autre côté, la conciliation de la médiation judiciaire incidente qui intervient en cour d'instance. Il est préférable pour les parties que celui qui essaie de les concilier ne soit pas celui qui viendra les juger après. Donc ça me semble une évolution très très nette pour le droit français. On reste sur la double fonction, peut-être, mais...
Oui, mais moi, je voulais reprendre là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau en Belgique qui est récent, qui est la chambre de règlement amiable, qui est uniquement dans le champ familial et qui est organisée par la loi et qui permet donc à un juge conciliateur un juge conciliateur qui siège et qui va recevoir les parties et qui tente de les concilier. Ce n'est pas le juge qui va traiter de l'affaire.
Comme au Québec, avec la conférence de règlement à l'amiable. Voilà. Alors, c'est un juge différent.
Voilà. Et ce qui est frappant, c'est que ça a un succès considérable. Et en tout cas, c'est tout à fait nouveau. Hein, mais donc il y avait une réunion, une commission parlementaire qui faisait l'évaluation. Tout le monde disait que c'était l'enthousiasme voilà, et les résultats aussi sont impressionnants en termes de nombre d'affaires. Résolu comme ça. Évidemment, ça pose. Moi, ça me. Disons que ça ne m'étonne pas quelque part, justement, parce que on s'est fait croire que, au fond, tout le monde pouvait et adhérait à un processus de règlement de conflit avec un intervenant sans autorité. Alors qu'un grand nombre de personnes, au contraire, sont demandeuses d'avoir une personne d'autorité face à elle, et que si cette personne d'autorité les encourage dans un processus de négociation, il y a quelque chose qui peut se prendre et qui est finalement assez positif. La difficulté pour moi est de plusieurs ordres. D'abord au niveau de la formation, il faut être sûr que c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que En réalité, je crois que les écueils sont d'autant plus dangereux qu'on est en position d'autorité. Je dis, quand on n'a pas de position d'autorité, si on est un mauvais médiateur, on peut, à la limite, on ne peut pas faire trop de mal.
Trop de mal.
Hein? Et quand on est en position d'autorité, si en plus on est dans cette... on n'a pas cette finesse de se rendre compte quand à certains moments on impose sa vision, et ça peut se passer de manière extrêmement subtile justement en matière familiale à cause de ces modèles qui sont en plus toutes des histoires personnelles aussi, donc il y a tout un ensemble de choses. Donc là ça pourrait pour moi être à remettre en question. Donc peut-être pour les situations difficiles, peut-être voilà. Et il y a en plus, parce qu'il y a le côté management, c'est qu'on veut à la fois, on se dit que on veut, il y a cet engouement, mais ça prend du temps. Et donc, par exemple, à Bruxelles, on limite ça, je crois, à 2 séances d'une heure et demie. Mais alors, le discours officiel, c'est que si après ça ne marche pas, on renvoie vers des médiateurs, mais je n'y crois pas, parce que les gens, en général, quand c'est difficile, ils ouvrent la capacité de négocier, ça marche une fois.
Oui.
Après, ils ont échoué.
Oui.
Et donc, je suis surtout inquiet, en fait, par rapport à ces situations très conflictuelles, ou qui ne serait pas envoyée chez le médiateur alors qu'elle devrait plutôt l'être, parce que là on a un petit peu plus le moyen de les traiter, et donc ils sont traités finalement par quelqu'un qui n'est peut-être pas très bien formé ou pas suffisamment, en tout cas ça passe pour un nombre de situations mais pas dans des situations vraiment complexes, et ce sont finalement des situations perdues qui vont rester dans le pipeline judiciaire et vont continuer à l'encombrer durablement, parce que ces situations là elles coûtent très très cher à l'État. Voilà, je dirais ça.
Si je peux peut-être rebondir sur ce point de la double fonction. Je parlais de la conférence de règlement à l'amiable du Québec qui a réformé récemment son code de procédure civile et qui a placé la recherche du règlement amiable au premier rang de ses principes directeurs. Ce sont les articles 151.15 à 151.21. Il y a eu aussi une première évaluation qui vient d'être faite par une équipe de l'Université de Sherbrooke pilotée par Jean-François Auberge. Vous trouverez, je pense, le rapport soit sur le site de la Cour supérieure du Québec, soit sur le site de l'Université de Sherbrooke. Et c'est aussi un rapport extrêmement positif que celui de cette conférence de règlement à l'amiable, qui est intitulé « Le sentiment d'accès à la justice ». Donc on parle bien de justice ici, et on parle bien de sentiment de justice. Je pense que c'est susceptible de vous intéresser. Le problème n'est pas propre à la juridiction étatique. On l'observe aussi dans l'arbitrage, puisqu'on a en matière d'arbitrage traditionnellement des formules hybrides comme le MED-ARB, hein, c'est-à-dire la médiation qui précède un arbitrage. En cas d'échec de la médiation, on passe à l'arbitrage. Et c'est la même personne qui va prendre sa casquette d'arbitre après avoir pris sa casquette de médiateur. Et ça, c'est quand même assez mal évalué aussi en matière d'arbitrage. C'est la raison pour laquelle, maintenant, on préfère des formules de MEDARB, mais qui font travailler successivement médiateurs et arbitres qui ne sont pas les mêmes. Donc, ce que l'on constate en matière de procédure juridictionnelle, on le constate aussi en matière d'arbitrage.
Il y avait la deuxième question.
Oui, alors la double casquette, juste en un mot, enfin, la double casquette avocat-médiateur. Mais si je fais le lien avec la question de l'autorité, ben, la dame est partie. Dommage. Mais c'est clair que les gens... donc on m'a appris la médiation en disant, surtout il faut cacher, les nouveaux médiateurs avocats que nous étions, on devait cacher cette identité avocat, comme si c'était quelque chose qui allait totalement corrompre en fait notre position. Et en fait, je crois que c'est tout l'inverse. Justement, pour un grand nombre de personnes, le fait qu'on est avocat assoit notre autorité dans le bon sens du terme et va faire qu'un certain nombre de personnes viennent. Je ne pense pas non plus seulement aux pères marocains. Je pense par exemple à ces hommes-là, vous savez, ces hommes qui sont eux-mêmes des financiers ou des... voilà, et qui, quand on peut dire, ben voilà, monsieur, ici on va parler fiscalité, finance, construction juridique, on va pouvoir s'entendre là-dessus, etc. C'est une manière de faire alliance. Et si on est uniquement dans un truc tout arrondi comme ça, ces gens-là, ils nous détestent. Donc moi, je suis homme, je suis avocat, je peux mettre la cravate quand il faut. Enfin, voilà. C'est un peu le caméléon en fonction des publics.
Voilà. Moi, j'avais juste, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a quelque chose dont vous n'avez parlé ni l'un ni l'autre, qui est la question, effectivement, du rituel, du décorum, des apparences, etc.,
si dans la doxa que vous avez évoquée et dont vous êtes éloignés l'un et l'autre, justifier l'éloignement de la scène judiciaire classique et de la figure du juge vers la conciliation ou de la médiation où on se débarrasserait effectivement d'un certain nombre d'apparences purement formelles ou qui cacheraient la réalité des choses, et on parlerait un langage, disons, plus ordinaire, un langage plus naturel et donc plus accessible évidemment aux justiciables de base, parce que c'est vrai que dans l'enceinte judiciaire, le langage est difficile. Le langage est difficile pour le justiciable, il a besoin d'un traducteur, d'un interprète, il est tout le temps obligé de passer par un intermédiaire pour... Alors évidemment, il parle, mais il doit être conseillé, il ne doit pas dire n'importe quoi, il doit faire attention à ce qu'il dit, etc. Et donc, dans la médiation, il y a l'idée, prétendue peut-être, que là, il peut parler librement, normalement, avec ses mots, sans justement avoir besoin d'une robe, donc peut-être... Vous contredisez ça, hein, puisque vous dites qu'il a besoin d'une cravate, c'est un peu la même fonction du costume qui garantit le sérieux de ce qui est en train de se passer. Mais je voulais savoir où se positionnait ce décorum dans le boom, qu'a rappelé Patricia, de la médiation. C'est-à-dire que est-ce que c'est une déformalisation simplement de la procédure, ou est-ce que c'est une déformalisation plutôt davantage du vécu, du rapport à la justice, pour justement donner le sentiment d'un accès à la justice, alors que parfois, quand on est confronté à un juge et une procédure formelle, on n'a pas l'impression de soi-même, hein, comme on rappelait l'anecdote, quand est-ce qu'on va plaider mon affaire, on n'a pas encore compris qu'on parlait de soi, parce que c'est dit d'une certaine façon par des acteurs qu'on ne comprend pas et auxquels on n'arrive pas à s'identifier. Donc voilà, c'est peut-être plus une remarque, mais c'était pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que ça me frappe que vous disiez parfois je peux mettre une cravate pour être respecté et pour que le processus que je vais mettre en place fonctionne. Je veux dire, la robe, elle a aussi cette fonction-là, enfin elle avait cette fonction-là, mais elle ne la rend plus manifestement pas aussi bien qu'elle le devrait. Donc, je me demande s'il n'y a pas une reformalisation, en quelque sorte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, un nouveau décorum, un nouveau rituel, de nouvelles apparences, de nouveaux... Mais...
Alors, peut-être sur ce point, moi, les choses me semblent assez claires. La déritualisation, ce n'est pas le passage de la juridiction à la médiation. D'une part, parce que cette déritualisation, elle existe aussi au sein même de l'institution judiciaire. Je ne vais pas ici revenir sur les travaux d'Antoine Garapon, mais le passage de l'audience classique à l'audience de cabinet est la meilleure expression de cette déritualisation. Ce sont de nouveaux rites qui se mettent en place, c'est un nouveau vécu du rapport à la justice, ce à quoi vous faisiez allusion. À l'inverse, la médiation n'est pas un espace sans forme, n'est pas un espace sans rite, n'est pas un espace sans procédure. Il y a au contraire des règlements qui sont produits par un certain nombre de centres d'arbitrage et de médiation. Il y a des guides de bonne pratique de la médiation. Il y a tout un certain nombre de choses. Et en réalité, il y a une véritable procédure de la médiation qui n'est pas la même, qui aménage différemment l'espace et le temps du débat, c'est certain. Mais ce n'est pas quelque chose qui est sans forme, sans rite, ni procédure.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il y a une idée fallacieuse du grand public à l'égard de ce que peut être, ou du grand public ou du petit public que nous sommes, à l'égard de ce que peut être la médiation, puisque dans la doxa classique, il y avait la douceur de la médiation que vous avez balayée tous les deux, mais il y avait aussi le côté déformalisé, plus naturel, plus réaliste de la
J'ai envie de dire, et de la justice.
Et de la justice.
C'est-à-dire qu'il y a une idée fausse que les gens se font de la justice. Et donc, je crois que, pour moi, je suis sensible au fait que cette soi-disant... incapacité, ou l'exemple, l'anecdote d'Avic, cette personne qui ne savait pas, c'est typique d'un procès d'une justice extrêmement formalisée. Je ne suis pas sûr que ça se passerait certainement pas au tribunal de la famille. Donc vous avez, de nouveau, ça dépend exactement. Vous avez des lieux où la justice est extrêmement formalisée, les gens n'y comprennent rien. Et puis il y a des lieux où les gens s'y retrouvent tout à fait. Donc c'est plutôt ça. Donc je crois que le décorum, lui, vient soutenir, peut venir soutenir cette idée d'autorité qui peut être quelque chose de positif, tout en permettant à côté un langage qui soit tout à fait accessible et qui soit déformalisé. Donc il y a une forme de confusion, me semble-t-il. Ouais. Il y a une question là-dedans.
Oui.
Excusez-moi. Je viens d'entendre que c'est pas sûr que le procès des prud'hommes en France ait vraiment rempli son rôle. Je ne sais pas si j'ai bien compris.
Vous avez bien compris.
J'ai fait un stage dans le sud de la France au conseil des prud'hommes et je pense que je suis un peu tenté de vous contredire parce que le conseil des prud'hommes est une institution qui est bien respectée en France et qui permet justement de régler un certain nombre de différends au niveau professionnel.
Oui, non.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment évaluez-vous le rôle de la Cour internationale c'est pas la Cour, en fait, c'est une chambre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Paris, qui a donc une réputation internationale. Et son équivalent, c'est à Washington, elle s'appelle ICSID, International Center for Dispute Settlement. Alors,
Écoutez, sur la première question, non. S'il y a une chose qui dysfonctionne en France, ce sont les conseils de prud'hommes. Franchement.
Pourquoi ?
Voilà une juridiction dont les jugements sont frappés d'appel à plus de 60%. Lorsque les autres juridictions sont frappées d'appel aux alentours de 15% et même moins. Voilà une juridiction où la durée moyenne des procédures, dans des contentieux d'urgence, souvent d'urgence alimentaire, est deux fois plus élevée que la moyenne devant les autres juridictions. C'est donc une juridiction qui dysfonctionne, et parce qu'elle dysfonctionne, sa réforme est demandée en France depuis extrêmement longtemps. L'an passé, la ministre de la Justice avait d'ailleurs demandé à Alain Lacabarats, qui était à l'époque président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, de faire des propositions de réforme qui, pour partie, ont été adoptées et qui sont actuellement en train d'être votées dans le cadre de ce que vous avez peut-être entendu en Belgique, appelée la loi Macron, qui est une loi destinée à renforcer la croissance économique, l'attractivité, etc. etc. Donc non, il y a un réel problème des conseils de prud'hommes en France qui ne remplissent absolument plus leur office. Voilà des juridictions qui ont été créées sur la base de la conciliation et qui concilient maintenant dans 6% des cas. L'échec, je crois, est patent. Pour ce qui concerne la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, bon... c'est quelque chose qui effectivement fonctionne très bien dans un contentieux d'affaires qui est un contentieux d'affaires international et qui est un contentieux d'affaires malgré tout élitiste. C'est un monde en soi. David Lodge parlerait de small world. C'est vraiment un petit monde en soi avec des équipes d'arbitres qui se cooptent en permanence, qui a évidemment ses atouts, mais qui a aussi ses excès, excès d'ailleurs consacrés par la jurisprudence française, qui a le malheur de voir, me semble-t-il, dans l'arbitrage international, un ordre juridique autonome, absolument indépendant des juridictions étatiques. À force de vouloir faire de Paris la place d'arbitrage, on en vient à abandonner quand même beaucoup de choses, me semble-t-il.
Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, de toute façon, l'heure est passée. Je vous remercie vraiment tous les deux.